Adrien Fagot, Martial, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de l'association Audition Solidarité. Vous êtes les 3 et 4 mars présents à l'hôpital de la Conception à Marseille. Quel est l'objectif, la mission de service public que cette association fait dans l'hôpital en liaison avec la PHM?
Nous sommes ici effectivement sur 2 journées où on va répondre aux problèmes d'audition des personnes qui sont dans une grande précarité et qui n'ont pas de couverture sociale ou qui bénéficient de l'aide médicale d'État.
Et les gens qui ont, par exemple, la CMU, la complémentaire universelle de maladie, est-ce que ce sont en fait vos bénéficiaires ou pas?
Alors non, nous ne répondons pas à ces personnes parce qu'effectivement les personnes qui ont une couverture sociale ou qui ont la CMU maintenant sont prises en charge dans le circuit classique. Et donc nous répondons vraiment aux personnes qui n'ont vraiment pas de couverture sociale ou qui ont l'aide médicale d'État.
Alors vous existez depuis 12 ans, est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas appariés alors qu'ils entendent mal?
Oui, d'une part, il y a beaucoup de Français qui ne sont pas encore appareillés alors qu'ils ont un problème d'audition. Et puis, il y a effectivement un manque donc pour la population qui n'a vraiment pas de couverture sociale ou qui bénéficie de l'aide médicale d'État. Voilà, on répond effectivement à un petit trou du système et on vient en complément du circuit classique qui est mis en place dans les villes.
Vous pouvez décrire pour le public, justement, parce qu'ici, il semble qu'il y ait tout, de l'examen de l'oreille jusqu'à l'explication de bien manier son appareil.
Oui, c'est ça. En fait, on recrée dans les couloirs donc de l'hôpital de la Conception en fait le circuit, la chaîne de l'audition. Donc, c'est-à-dire, dans chaque salle, on retrouve chaque étape de la chaîne de l'audition. Donc, ça commence par la consultation avec le médecin ORL dans une première salle, et puis après, il y a la salle d'audiométrie, où là les personnes font un test d'audition. Et puis si on voit qu'il y a une nécessité d'appareiller cette personne, s'il y a une surdité, donc la personne continue la chaîne et puis va dans une autre salle où là on va faire un embout auriculaire sur mesure. Et puis ensuite, dans une autre salle encore, elle va être appareillée, donc des appareils numériques bien sûr, avec appareillage sur mesure réglé avec le logiciel professionnel. Il y a une dernière salle, c'est l'orthophonie. Donc voilà, pour finir la chaîne, la personne, une fois appareillée, va faire une séance d'orthophonie.
Une séance d'orthophonie, pourquoi faire?
Alors l'orthophonie, c'est essentiel hein, dans notre chaîne, c'est vraiment le dernier maillon. Après avoir appareillé la personne, donc on permet à cette personne de réentendre des sons. Et maintenant, encore faut-il pouvoir les ressortir, ces sons. Et donc là, c'est le travail de l'orthophonie, c'est-à-dire pouvoir déjà discriminer des sons qui sont très proches à l'oreille, pouvoir faire la différence entre des sons très proches et pouvoir après, pour les personnes qui sont sourdes profondes, pouvoir placer son souffle, ressortir ses mots, ressortir ces sons que l'on entend.
Par exemple, Marilou ou Marion.
Voilà, il y a beaucoup de mots comme ça très proches que les personnes malentendantes ont du mal à différencier. Et donc on travaille vraiment sur la phonétique, sur la discrimination des sons.
Je reviens sur la première étape, examen des oreilles. Il semble qu'il y ait des gens qui viennent ici et qui ont même les tympans percés.
Oui, c'est vrai, on voit tout type de problèmes au niveau de l'ORL. Donc, il y a parfois des tympans percés, effectivement. Il y a parfois des bouchons de cérumen aussi qui sont enlevés au niveau de cette étape. Et puis, il y a parfois d'autres pathologies aussi dans l'oreille. Donc là, le médecin peut prescrire effectivement des médicaments.
Et ces appareils que vous donnez gratuitement, ils viennent d'où?
Alors, ces appareils sont dans la grande majorité issus du recyclage. Donc, on a un atelier qui est unique en France où on reçoit des milliers d'appareils auditifs chaque année et ils sont recyclés dans cet atelier. Donc, c'est-à-dire, on donne une seconde vie aux appareils qui sont jetés ou avant qui étaient jetés en tout cas ou qui n'étaient plus utilisés. Nous, on leur donne une seconde vie.
Est-ce que vous faites de la prévention aussi? Parce qu'on voit beaucoup de personnes avec des écouteurs dans les oreilles, dans les transports publics, dans la rue.
Effectivement, il y a une autre grande action de l'association qui est la prévention auditive. Donc là, nous, on a pour cible en fait les conservatoires et les écoles de musique où les jeunes font de la musique et les moins jeunes d'ailleurs aussi. Et là, effectivement, on passe un message de prévention auditive. Donc on leur explique le fonctionnement de leur oreille et surtout on leur donne des bons conseils pour prendre soin de leur audition.
Quel conseil, par exemple?
En termes de conseils, on va leur donner beaucoup de conseils, c'est-à-dire, par exemple, tout simplement de faire des moments de pause, de silence, après avoir sollicité son oreille pendant une répétition ou pendant un concert. Voilà, laisser souffler un petit peu son oreille, laisser l'oreille au repos et faire des moments de pause après l'avoir sollicité. D'autres conseils aussi, c'est s'éloigner aussi un petit peu de la source sonore, un maximum, éviter de mettre de la musique compressée avec des écouteurs qui vont directement dans l'oreille et contre le tympan, privilégier voilà, l'écoute de la musique avec des enceintes ou des casques audio.
Vous venez deux fois par an à Marseille parce qu'il est important tous les 6 mois de faire un contrôle des appareils auditifs, de bien voir s'ils sont adaptés à la personne. Ce suivi est indispensable ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui nous est très cher, c'est de suivre ces patients et de voir ces missions dans la pérennité et dans la distance. C'est-à-dire qu'on revient tous les 6 mois au même endroit et on revoit les personnes pour effectivement faire ce suivi qui est primordial. Hein. Donc voir si les appareils sont bien réglés, faire les ajustements nécessaires, leur redonner aussi des piles, faire voilà, vraiment le contrôle qu'on retrouve dans le circuit classique.
Vous venez deux fois par an, mais malgré tout, on ne sent pas une campagne de presse. Vous êtes quand même peu connu, vous avez quand même fait de la télé. Mais comment ça se fait que vous ne soyez pas plus connu ?
C'est sûr, c'est un des axes qu'on essaie de travailler. C'est vrai que c'est dur de se faire connaître, donc merci déjà d'être ici avec moi et de faire passer ce message. On passe souvent, c'est vrai, à la télé, on a des reportages télé qui commencent à arriver. Et puis on est aussi bien connu maintenant du réseau associatif marseillais qui, eux, nous permettent de nous passer l'information et de nous envoyer en fait les personnes qu'on peut aider. Mais c'est sûr, on travaille à être plus connu.
C'est d'autant plus dommageable que vous venez de le dire, les personnes qui peuvent être aidées, vous en recevez une quarantaine, c'est peu par rapport aux besoins.
Oui, c'est ça. C'est un petit peu frustrant, c'est vrai pour nous, parce que nous, on a les infrastructures, on a le matériel, on a les compétences, on a une équipe de professionnels de l'audition qui sont là. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'audition et qui n'ont pas de couverture sociale qu'on pourrait aider. Notre objectif, c'est vraiment de les faire venir à nous.
Pour finir, on va voir comment est financée cette association Audition Solidarité d'une manière assez originale.
Oui, alors nous, on est financé beaucoup par le mécénat privé. Donc, ce sont des chefs d'entreprise. Hein. Il y a beaucoup d'audioprothésistes, notamment, qui ont des centres solidaires. Donc, c'est-à-dire qui nous aident financièrement. Ils reversent 10 euros par appareil auditif qu'ils vendent dans leur centre. Et aussi, ils récupèrent les appareils auditifs de leurs patients ou du grand public lorsqu'il y a un renouvellement, lorsque les appareils ne sont plus utilisés. Ces centres les récupèrent et nous les envoient. Voilà.
Combien d'audioprothésistes, il y a des milliers d'audioprothésistes en France, sont justement vos mécènes privés ?
Nous, on a uniquement, mais c'est déjà beaucoup, parce que c'est 1+1, et puis chaque mécène est important. On en a 200 voilà, qui sont mécènes en France, et ces 200 audioprothésistes rassemblent à eux 350 centres d'audioprothèses qui sont des centres solidaires partout en France.
En tout cas, je finirai par là, vous avez un financement assez conséquent puisque vous allez aussi à l'étranger.
Oui, tout à fait. On est aussi aidé par des fondations privées et on mène des actions aussi à l'étranger dans des écoles d'enfants sourds et malentendants. Donc là, ce sont des enfants que l'on appareille à l'étranger. On a des missions présentes donc au Maroc, à Madagascar, en République dominicaine et au Vietnam.
Et en France, vous passez à Marseille et à Paris ?
Tout à fait. En France, on a une mission donc du même ordre qui est à Paris depuis 2011, et donc en partenariat avec l'APHP, donc les hôpitaux de Paris, et puis à Marseille aussi deux fois par an avec l'APHM.
Pourquoi Marseille ? Quelle est l'importance de Marseille dans votre dispositif ?
Le choix de Marseille, c'est arrivé assez vite parce qu'on faisait ces missions à Paris. Le parrain de l'association étant Martin Hirsch, le directeur général des hôpitaux de Paris. Une fois que les missions parisiennes étaient bien établies, il nous a conseillé voilà, de faire la même chose à Marseille. Et puis effectivement, on s'est renseigné aussi. Et Marseille, c'est vrai que c'est la deuxième plus grande ville de France. Et il y a une population de personnes sans papier, sans couverture sociale très importante et qui auraient besoin de notre aide. Donc c'était un choix évident.